est blanche.
Que fait l'État vis-à-vis des startups? Je vous parle d'un temps qu'il y a encore 20 ans, on avait trop entendu, trop en tête, celui qui disait « en France, on peut pas entreprendre ». Ça a beaucoup changé, mais pour certains, on se demande parfois encore, concrètement, on n'a pas tout en tête, que fait l'État pour nous, les entrepreneurs, a fortiori pour les entrepreneurs de la tech? Et pour en discuter, ça tombe bien, je suis avec la patronne des patronnes de la tech, directrice de la mission French Tech, Clara Chappaz. Bonjour.
Bonjour.
Ça te va comme programme? On va expliquer ce que vous faites. On va aussi revenir sur ton parcours, ce qui t'a amené là. Puis peut-être qu'on parlera de la suite. S'il faut se projeter, on lance officiellement ton 40 nuances de Next.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
Elle commence bien cette interview. Je lance un 40 nuances de Next alors qu'on est bien sur 40 nuances de Sista. J'avais plus l'habitude de remplacer au pied levé notre fidèle associée Solène Etienne qui s'est foulée la cheville. Donc il fallait bien la remplacer au pied levé. Mais donc c'est bien un 40 nuances de Sista avec toi Clara, la Sista de Loïc Soubéran, fondateur et dirigeant de Swile.
Tout à fait.
Je te propose de démarrer dans le dur avec c'est quoi la French Tech. C'est pas qu'une marque, c'est pas qu'un coq rouge. Il y a une vision, il y a une ambition, il y a des actions.
Tout à fait. En fait, la French Tech, ou peut-être pour commencer, la mission French Tech, que j'ai la chance de diriger depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, c'est une administration au sein du ministère de l'économie, donc à Bercy, qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée, ça fait vraiment français, on a une administration qui est en charge des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, ça a été créé en 2013, donc on est en 2023, ça n'échappe à personne, c'est les 10 ans de la mission French Tech cette année, avec, je pense, cette idée à l'époque complètement novatrice de se dire, si on veut exister en France, sur la scène internationale pour la tech, pour l'entrepreneuriat en tech, il faut qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté. Il faut qu'on puisse travailler tous ensemble. Les associations, on a parlé de France Digital, je crois qu'il y a un des partenaires. Sista, bien sûr, on est sur 40 nuances de Sista. Et la ferme digitale, l'écosystème associatif est très riche. Les entrepreneurs qui sont les premiers concernés, les investisseurs, mais aussi l'État. Et l'État a son rôle à jouer pour accompagner la croissance de cet écosystème. Et c'est la naissance de cette mission French Tech.
À l'époque, c'est Mounir Majoubi.
À l'époque, c'est Fleur Pellerin.
Fleur Pellerin, effectivement.
Ouais, qui est ministre du numérique et donc qui lance cette French Tech. Et dans une des premières cristallisations de l'idée, il y a aussi l'idée de créer une marque. En fait, c'est assez important parce que ça peut paraître anecdotique, voire même ça peut faire un peu sourire, ce petit coq rouge en origami, que je pense certains d'entre vous voient très bien ce dont je veux parler.
Non, mais si ça s'appelait la mission start-up innovante et technologique, ça n'aurait pas la même...
Ou quartier numérique, qui je crois a été un des noms envisagés okay. À l'époque. Je n'étais pas là, mais c'est les rumeurs qui existent autour de cette création. Pourquoi une marque, c'est important? Parce que je pense qu'il fallait rendre visible et lisible le fait que oui, il y a une communauté d'entrepreneurs en France, oui, on peut entreprendre en France, tu disais il y a 20 ans peut-être qu'on se posait la question, et on va faire des choses très belles tous ensemble. Il fallait la rendre visible pour les entrepreneurs eux-mêmes, ce sentiment de fierté, pour les investisseurs, pour les talents. Ça a permis vraiment que quand on regarde le monde entier, qu'on se dit où est la tech, bah, elle est là où il y a le petit coq rouge, elle est en France.
Et justement, avec une visibilité aussi à l'international, parce que c'est un des enjeux de développement de nos startups.
Tout à fait. Dès le début, dans la vision, il y avait l'idée de se dire la France, c'est un marché extraordinaire. On peut développer énormément de choses d'un point de vue technologique, business en France. Mais si on veut créer des géants technologiques à l'échelle mondiale, il va falloir traverser les frontières. Donc, la dimension internationale est au cœur de ce qui a été fait. D'ailleurs, ça s'appelle French Tech. Bien sûr, la marque fait pas tout. C'est un des très beaux succès, mais c'est pas la seule facette de ce qui est fait aujourd'hui dans la mission French Tech. Il y a aussi...
Il y a un produit derrière la marque.
Il y a aussi, et peut-être avant tout, un réseau incroyable de 99 communautés et 16 capitales French Tech. C'est un peu jargon, mais qu'est-ce que c'est avant tout? C'est des entrepreneurs qui ont réussi, qui vont utiliser leur expérience et leur expertise pour finalement rendre à leurs pairs, aux nouveaux entrepreneurs, du temps, de l'expérience, de l'expertise et fédérer ces communautés d'entrepreneurs partout dans le monde. Donc c'est de French Tech Limoges à French Tech Lyon, en passant par French Tech Boston ou French Tech Bangkok, il y a toujours quelqu'un pour accueillir les entrepreneurs.
Donc déjà, ils peuvent se retrouver entre eux, échanger, partager les bons plans, les écueils à éviter aussi. Ça va quand même au-delà de ça.
Tout à fait. En fait, on est face à un réseau associatif qui est vraiment bouillonnant, qui est partout sur le territoire français et à l'international, et qui agit comme fédérateur, mais aussi comme finalement un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour développer son entreprise, pour et on y reviendra, mais avancer sur un certain nombre d'axes stratégiques qu'on porte à la mission French Tech, que sont la transition écologique, la parité, la deep tech, et on parlait de l'international aussi. Pour les French Tech internationales, être un peu une plateforme de soft landing, excusez-moi ce bon français, mais de pouvoir être là pour en appui quand on va aller ouvrir un bureau à l'international, on a quelqu'un vers qui on peut se reposer, et à l'inverse aussi des relais d'attractivité, parce que partout où ces associations French Tech locales sont, on peut faire rayonner la marque French Tech, on peut attirer du coup en France, dans les startups d'une excellente du French Tech 120 ou toutes les startups de la French Tech, des talents et des investisseurs qu'ils auront rencontrés.
On l'a dit, la French Tech, c'est une entité au sein de l'État. J'ai ouvert avec ce son, mais d'habitude, les entrepreneurs s'y plient tous. On leur ouvre le micro et on leur offre la capacité de prendre le pouvoir à l'Élysée, à Matignon, au ministère de leur choix. Donc toi, tu viens de Bercy. Si demain, je te lance ça... Et que je te propose de porter une idée, une vision, une transition.
Alors, j'ai une chance assez exceptionnelle, c'est que finalement, les personnes dont tu parles, aujourd'hui, c'est mes patrons. Donc, je peux travailler sur des sujets que je pense sont extrêmement importants pour le dynamisme de l'écosystème et pour la suite de l'écosystème. Et ces projets, on les porte. Et ça, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, finalement. Donc, si je dois en choisir un, je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, on connaît, d'ailleurs, je crois que c'est 60% des Français ont au quotidien affaire aux startups de la French Tech. On a dans notre téléphone Blablacar,
Vente privée,
Back Market. On utilise, ces usages sont rentrés dans le quotidien. D'ailleurs, on dit fais-moi un Lydia. Voilà, on a, je pense, enfin, les entrepreneurs et entrepreneuses ont transformé la façon dont un certain nombre d'entre nous vivent au quotidien, dans notre vie perso et aussi dans notre vie pro, d'ailleurs, avec tout un nombre d'outils qui ont été développés. Une grande partie de ces fameuses licornes ou scale-up ou en tout cas celles du Next 40, aujourd'hui, on fait leur succès principalement dans des outils plutôt numériques. On est aujourd'hui à l'avenir, enfin à l'aube, même au début, même ça a quand même sacrément commencé pour certaines des technologies, d'une révolution technologique incroyable. Que ça soit dans le secteur de l'intelligence artificielle, bien sûr, de la cybersécurité, de la 5G, toutes les infrastructures numériques d'un côté, dans la santé, dans la transition écologique, tous ces secteurs clés d'avenir qui sont les secteurs de France 2030, ce grand plan d'investissement qui a été annoncé il y a maintenant quasiment 2 ans, sont des secteurs sur lesquels finalement...
L'État met des moyens.
On met des moyens. Et parce que la compétition internationale, finalement, repart un peu à zéro. Il n'y a pas d'ordinateur quantique aujourd'hui qui fonctionne dans le monde entier. Tout est à construire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette course, mais tout est à construire. Et on a l'opportunité d'être les leaders sur toutes ces révolutions technologiques. Et je pense que c'est ça qu'on porte, notamment avec le programme French Tech 2030. Comment on met le meilleur de l'État, le secrétariat général pour l'investissement, avec le plan France 2030, la BPI, bien sûr, qu'on ne présente plus, qui finance les entrepreneurs et l'accompagnement de la mission French Tech derrière ces entreprises. On a parlé de quantique, je pense à Pascal, on a parlé transition écologique, je crois que tu as reçu Zplug et NW Storm. Comment est-ce que ces entreprises qui vont trouver les solutions de demain, qui ne sont pas toutes du numérique, il y en a des numériques, mais qui sont aussi, pour la moitié d'entre elles, des startups industrielles, vont pouvoir se développer et créer les technos dont on a besoin, mais aussi réindustrialiser la France.
Donc là, ça veut dire, alors ça tombe bien parce que nous, on adore le Next 40, c'est le podcast qui leur est dédié, mais comme on en retrouve beaucoup d'un palmarès à l'autre, d'une année à l'autre, on se demande quand est-ce qu'on va mettre fin à notre podcast parce qu'on les aura tous eus. Heureusement, certains écrivent des livres, ce qui nous donne l'occasion de les recevoir de nouveau. Mais donc là, on va avoir un nouveau palmarès.
Tout à fait. On aura, d'ailleurs aujourd'hui, on dévoilera à VivaTech la liste de la centaine d'entreprises du French Tech 2030 qui sont ces entreprises d'innovation de rupture, les pépites de toutes ces technologies critiques que je viens de citer, qui ont un potentiel énorme et de transformation de la société et business parce qu'on est sur des marchés qui sont en train de se construire et qui vont être énormes.
Donc là, il y a des vraies révolutions à prendre en marche. La capacité et l'aura que peut avoir la French Tech pour illustrer, mettre en lumière ces startups. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce que vous avez fait sur le Next 40. Alors, elles se doivent beaucoup, ces startups, hein, dans la visibilité qu'elles ont eue. Mine de rien, toutes celles qui sont passées par le Next 40 témoignent, mais peut-être tu le diras aussi avec tes mots, et j'imagine qu'ils te le racontent aussi, de ce que ça leur a apporté.
Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a l'aspect visibilité, crédibilité. On parlait de marque. Le Next 40, peut-être même sans vraiment l'imaginer comme tel, est devenu une marque. Aujourd'hui, je suis un talent, je veux rejoindre une startup de la French Tech. Je vais regarder est-ce que la boîte est French Tech 120 ou Next 40. Je suis un investisseur, notamment étranger.
Ça rassure, bien sûr.
J'atterris en France, je vais regarder la liste des Next 40. Donc, c'est devenu un gage de crédibilité. Mais au-delà du label, il y a tout un programme. Et je pense que ça, c'est ce que parfois le grand public ne voit pas. Je parlais des métiers qu'on fait dans l'administration, de la mission French Tech. On a toute la partie visibilité et marque, dont on a parlé, l'origami, le coq. On a toute l'animation de réseau, dont j'ai parlé, le réseau de proximité. Et le troisième métier, c'est l'accompagnement. Alors, on n'est pas un financeur, on n'est pas la BPI, on n'est pas non plus un incubateur, mais en fait, derrière le Next 40 se cache une équipe assez exceptionnelle. Je peux d'autant le dire que je travaille avec eux au quotidien.
C'est ton équipe.
Et de personnes qui vont être des facilitateurs de toutes les démarches que ces startups du Next 40 French Tech 120 peuvent avoir à faire avec l'État. Je prends un exemple concret. On parlait de startups industrielles, Vercors, startup du Next 40, qui va ouvrir une des plus grandes usines de batteries électriques au monde à Dunkerque, ici en France, et créer je ne sais combien d'emplois grâce à ce projet. Pour construire des batteries électriques, il faut des ingénieurs qui connaissent ces métiers. Ce sont des métiers quand même encore assez innovants. Mmh. Ils vont avoir besoin de s'appuyer sur un certain nombre de talents étrangers. Et on va pouvoir les aider à faciliter l'avenue de ces talents étrangers.
Donc l'obtention du
French
visa,
Tech Visa, ouais. Notamment. Donc on est un point de contact et un facilitateur dans toutes ces démarches. Une startup qui peut-être travaille dans la biotech va avoir besoin d'un certain nombre d'accréditations, va pouvoir faciliter ses démarches.
Donc rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir au moins se faire entendre et trouver des solutions et du coup un gain de temps évident.
Exactement. Et en fait, c'est un atout double parce que ça débloque les boîtes, comme ça elles peuvent se concentrer sur développer leurs produits, leur innovation et leur business, qui est quand même le plus important.
Ça crée de l'emploi et ça solutionne des projets.
Et puis de l'autre côté, nous, État, qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet d'être en contact direct avec les startups en permanence et finalement de voir à l'échelle plus structurelle est-ce qu'il y a des points de blocage. On parlait talent. La création du French Tech Visa, c'est ça. C'est des échanges avec le Next 40 French Tech 120.
Qui ensuite sert à tout le monde.
Les BSPCE. Certains utilisent ce dispositif, la plupart des startups du Next 40, c'est pareil, des discussions avec les entreprises sur la réflexion de quels seraient les bons mécanismes de partage de la valeur pour les startups. Ça permet de créer ce genre de dispositif. Donc, c'est des échanges finalement permanents qui vont dans les deux sens, qui permettent aux entreprises d'accélérer et qui permettent à l'État
de s'adapter aussi un peu mieux aux vrais besoins.
Ouais.
Donc là, on est... Vas-y.
Donc pour revenir sur le French Tech 2030, on aura, grâce à cette expérience qu'on a pu avoir depuis 2019 avec le French Tech 120 Next 40, on a développé une vraie compétence dans l'accompagnement. Et donc, on va mettre à disposition cette compétence. Donc, non seulement la visibilité, crédibilité du label, qui est très importante, le fait de pouvoir faire participer les entreprises à des délégations. Le ministre Jean-Noël Barrot était au Japon il y a quelques semaines. Il a embarqué avec lui un certain nombre de startups dans sa valise. Donc, tout cet aspect sera là, mais il y a aussi l'aspect accompagnement. Donc, comment est-ce qu'on facilite la vie de ces entreprises? Et c'est assez unique pour ce programme. Aussi, un côté très collectif des services de l'État au profit de ces boîtes. Donc, ce programme, il sera avec le SGPI, j'en parlais tout à l'heure, et la BPI, avec l'idée aussi de pouvoir les accompagner dans l'obtention de fonds de France 2030. On parlait du plan France 2030. Il y a plus de 50 milliards de dollars à destination de ces technologies. On va pouvoir les accompagner pour qu'elles essayent d'obtenir ces subventions. Donc un peu, voilà, on met tout le meilleur, le financement, l'accompagnement, la visibilité, parce que ce sont les pépites qui vont créer l'ordinateur quantique de demain, qui vont créer les meilleures technologies de cybersécurité ou de transition écologique.
Justement, sur cette transition écologique, ça ne veut pas dire que toutes les autres startups n'ont pas à se soucier du sujet. On a tous une responsabilité, alors chacun avec des échelles différentes, mais même si on n'est pas green tech, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se repenser aussi en la matière.
C'est un très bon point. Dans le programme French Tech 2030, la moitié des lauréats sont des lauréats qui développent des technologies qui sont directement des solutions pour une partie du problème. Le problème en entier ne sera pas réglé que par des solutions technologiques. Ça, je pense qu'on est d'accord.
Ouais, tout à fait.
Il va falloir changer nos usages. D'ailleurs, les startups aident aussi à ça, en quelque sorte. Mais elles résoudent une partie du problème de la transition écologique. C'est des startups comme des startups qui travaillent sur des nouvelles sources d'énergie, qui travaillent sur la rénovation énergétique, l'électrification.
La seconde main, enfin bref, il y a plein de choses.
L'agriculture durable. Mais pourquoi 50%? Parce que je pense que ça démontre de l'importance du problème et du vivier de la green tech en France. On a, sur l'année 2022, un cinquième des fonds qui ont été levés qui sont allés directement dans ces startups de la green tech. C'est le secteur qui a le plus accéléré en 2022, x2 sur les montants d'investissement. Avec, comme je disais, un univers des technologies qui est très vaste et des entrepreneurs très talentueux qui vont s'adosser à ce problème. Donc, c'est un secteur extrêmement dynamique. Mais je pense que ça serait une erreur de se dire « Bon, c'est super, on a les green tech d'un côté
qui vont tout gérer
tout le problème,
pour les autres. Ouais. »
Et puis, le reste se contente de... Même si se contenter, c'est le mauvais mot parce que c'est un gros challenge, mais développent leur technologie, peu importe la technologie.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une prise de conscience indépendamment des obligations.
Du coup, ce qu'on a mis en place pour la première fois cette année pour le French Tech 120, c'est une obligation de mesurer son impact carbone. Scope 1, 2, 3. Ça paraît peut-être un petit geste par rapport à l'ampleur du problème, mais en fait, c'est le premier geste. Parce que si on ne comprend pas où on en est, on ne peut pas agir. Donc, on est très mobilisé aujourd'hui pour accompagner les entreprises à mesurer cet impact carbone. Aujourd'hui, sur le French Tech 120, il y en avait à peu près une sur deux qui le faisaient déjà, et une sur deux pour qui ça va être nouveau. Et c'est ça aussi, je pense, ces programmes, le Next 40, French Tech 120, demain French Tech 2030, c'est le pouvoir du collectif. C'est aussi arriver à finalement se dire, on crée un groupe dans lequel on a tous un peu les mêmes questions à différents moments. On a tous essayé de travailler, que ce soit sur l'aspect du financement, l'aspect des ressources humaines, la culture d'entreprise, et là, l'aspect de la transition écologique. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour prendre finalement ce qui marche chez les gens et chez les autres et apprendre les uns des autres? Donc, c'est un peu la dynamique qu'on met en place depuis que cet engagement a été pris, de faire des ateliers collectifs, de partage d'expériences, moi, c'est la première fois que je vais devoir faire mon bilan carbone. Comment, avec qui, avec quel partenaire, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment embarquer l'entreprise dans cette dynamique de façon très, très concrète. Et là-dessus, en fait, les startups elles-mêmes sont les meilleurs guides et nous, on est encore une fois facilitateurs de ces échanges.
Je vais te proposer de passer une question d'un de nos partenaires parce que il y a des choses forcément que tu auras déjà évoquées et je voudrais pas qu'on ait répondu à toute sa question. Une fois que je la passerai, je te propose d'écouter Louis Carl, le cofondateur de Madines.
Vous avez un message. La French Tech vient de fêter ses 10 ans. 10 ans structurants pour l'écosystème, avec une action remarquable autant que pour cette figure de l'entrepreneur qui est redevenue très attractive pour les nouvelles générations. Puisqu'aujourd'hui, 8 jeunes sur 10 veulent devenir entrepreneurs. Comment vois-tu les 10 prochaines années de la French Tech et quelles seront les... Ce sera ma deuxième question. Quelles seront les grandes tendances de fond, selon toi, pour ces nouvelles années qui s'ouvrent à nous ?
Donc, on a au moins couvert 7 ans avec France 2030.
Qu'est-ce qu'il reste pour les 3 d'après ? Non, d'abord, je voudrais revenir sur ce chiffre de 8 jeunes sur 10 veulent être entrepreneurs. Parce qu'on passe vite dessus, mais c'est quand même un succès incroyable. Je n'ai pas le chiffre, mais je pense que si on posait cette même question en 2013, on serait très, très loin du 8 sur 10.
Ah bah, je peux te répondre, c'était moins de 50%. Ah c'était entre 30 et 46, je crois.
Donc, je pense que ça montre... déjà avant tout le travail formidable qui a été fait par les entrepreneurs et les entrepreneuses de la French Tech qui ont créé des startups, on en parlait de notre quotidien
qui font rêver
donc ça c'est déjà une réussite à part entière et voilà, et ça montre que c'est possible aujourd'hui de monter sa boîte en France. C'est quelque chose qui, quand on demande voilà, aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire, bah, je vais être entrepreneur. C'est pas, et c'est quelque chose qui est concret, quoi. C'est pas je veux être astronaute et il y a un astronaute parmi je ne sais combien de milliers de personnes qui veulent être astronaute. Donc je pense que c'est un très beau succès et qu'il faut, il faut s'en féliciter collectivement parce que c'est cet aspect collectif dont je parlais au début, mais d'avoir eu autant de mouvements associatifs, l'État, les entrepreneurs eux-mêmes, les investisseurs, qui ont tous poussé dans le même sens, ça fait qu'on en est là aujourd'hui et qu'on a les beaux succès qui sont tous interviewés dans ce podcast. Donc on peut se féliciter, même si se féliciter n'est pas toujours très français, je pense que c'est important de le faire, parce qu'il y a un très très gros travail qui a été fait.
Tout en ne faisant pas croire, on en parlait un petit peu avant, que ça se fait en claquant des doigts une réussite, on n'arrive pas à une Nex40 parfois sans douleur ou sans sacrifice, en tout cas pas sans travail et pas sans ambition.
Tout à fait, et je pense que ce podcast en est l'illustration. Chaque entrepreneur qui passe ici a eu des hauts, a eu des bas. On parlait de Loïc Soubéran qui m'a nommé du coup pour ce podcast. Loïc, je pense, l'a raconté dans le podcast, mais dit lui-même que quand il a commencé Swile, le produit qu'il avait en tête à la base n'est pas du tout le produit que Swile est aujourd'hui. Et c'est à force d'adaptation, de résilience, qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui. Et c'est peut-être la qualité, je pense, qu'on a le plus vu dans les entrepreneurs, cette résilience, cette énergie qui finalement surpasse les obstacles. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est très vrai,
c'est une réalité,
et on en a
ouais.
besoin. Et bon, je vais quand même répondre dans 10 ans. Donc,
oui, on ne t'a pas oublié.
Une fois qu'on s'est félicité, c'est très bien, mais on est clairement loin d'être arrivé. Je pense que ça, il faut quand même se le dire. On a une trentaine de fameuses licornes, mais plus, de façon plus importante, en tout cas pour nous, on a surtout 1 million de personnes aujourd'hui qui travaillent de façon directe ou indirecte dans les startups. Donc, ça a pris une ampleur exceptionnelle. Mais ça n'aura échappé à personne que quand on regarde les très grandes entreprises de la tech mondiale, qui ont toutes été créées dans les 20 dernières années, qui ont toutes une place énorme dans l'économie mondiale, je pense bien sûr aux GAFA, mes compagnies, il n'y a pas de startup française. Il n'y a d'ailleurs pas de startup européenne. Donc, il y a encore du chemin, il y a encore une opportunité énorme de continuer à construire ces géants. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, on est au début, aux prémices d'un certain nombre de révolutions technologiques qui ouvrent ces opportunités.
Donc aujourd'hui, il faudra être les premiers.
Aujourd'hui, je pense que l'énergie collective, elle est là, elle est, y a une vague technologique qui arrive, on ne veut pas la louper. L'État est là avec France 2030. Mmh. 50 milliards d'euros et quelques. Le programme French Tech 2030 pour accompagner, la BPI est extrêmement mobilisée. Les investisseurs...
Il y a un sujet d'investissement. Il y a aussi un sujet de marché européen. Les boîtes dont tu parles, c'est US ou Chine, globalement.
Tout à fait. Je pense que la dimension européenne est critique aussi dans ce succès. Il y a une initiative qui avait été lancée par le président Emmanuel Macron en 2020, je crois.
Quand on aime, on compte pas.
Qui s'appelle Scale Up Europe, qui visait à mettre en commun les scale-up de toute l'Europe pour se dire quels sont les freins qu'on identifie tous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'associer l'Europe pour avancer plus vite et créer finalement cette dynamique à l'échelle européenne ?
Il y a des freins ?
Était sorti un certain nombre de freins, dont un qui a été réglé, sur lequel on avance, qui est celui de la capacité pour les investisseurs privés de soutenir à l'échelle, c'est scale-up, parce que sur les gros tours de table, on a plutôt tendance à avoir des fonds américains ou asiatiques. Il y a une initiative, donc Scale-up Europe a donné son nom à un fonds de fonds qui a été annoncé l'année dernière et qui est la première partie est close depuis ce début d'année. Bruno Le Maire en a parlé. C'est 4
donc
milliards
on va
d'euros.
Commencer là à voir les petits, quoi.
Tout à fait. 4 milliards d'euros qui sont déjà disponibles dans ce fonds de fonds, à terme 10 milliards par tous les pays de l'Union européenne les plus gros qui ont contribué à ce fonds et qui vont aller vers des fonds d'investissement qui ont la capacité de lever plus d'un milliard d'euros, donc vraiment pour des très gros tickets derrière. Et c'est important parce que c'est aussi un enjeu de souveraineté. Si on veut créer le quantique, l'intelligence artificielle, ici en Europe, il va falloir aussi qu'on puisse les financer. Donc ça, c'était un des aspects.
Si tu vois autre chose pour finir de répondre à Louis ?
Ah, donc l'Europe, la Deep Tech, on en a parlé. Ouais. L'Europe, on en a parlé. Troisième plan, celui des talents. Je pense que dans les 10 premières années, on a fait, comme on l'a dit, énormément de progrès sur le fait que la French Tech maintenant a une vraie place dans l'économie française, mais aussi dans les usages. Il y a un enjeu peut-être qui reste, c'est dans ce dynamisme qu'a créé la French Tech, notamment au niveau de l'emploi et des talents, une vraie question de besoin d'ouverture. Je pense que ça n'aura échappé à personne que si on a besoin de ce type de podcast, c'est parce que l'écosystème reste très masculin, l'écosystème reste aussi très grande école, l'écosystème reste aussi très parisien. Donc, des enjeux...
Ça bouge un peu, mais après, c'est toujours une vraie réflexion, mais c'est vrai que quand on démarre, t'as souvent tendance à aller chercher des gens qui te rassurent, donc qui te ressemblent. Et en fait, c'est un changement de mentalité qu'il faut... Et en vrai, c'est très humain, malgré tout.
Et c'est pour ça qu'on voit cette tendance, par exemple, sur la parité. On la voit en France, mais on la voit dans tous les autres pays. Hein. La France n'est pas le mauvais élève. Mais justement, je pense que c'est exactement pour la raison que tu viens de donner qu'il faut se saisir du problème de façon proactive.
Commencer à le dire, déjà.
Parce que si on on mesure pas, on prend pas conscience, et du coup, on n'implémente pas de solution.
C'est comme pour l'impact carbone.
Tout à fait.
De savoir nommer pour...
Et c'est cette dynamique finalement qu'on a suivie pour créer une initiative. Là, je vais parler de la parité, mais on a aussi des programmes tout aussi importants sur la diversité au sens large, mais sur une dynamique et une initiative qu'on a construite l'année dernière qui s'appelle le Pacte Parité, avec l'idée de se
Est-ce
dire...
Est-ce que c'est lié à ta carte blanche ?
Allez, on part sur la carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Du coup, on m'a donné carte blanche sur un sujet qui me tient à cœur. Et sans grande surprise, j'ai pris celui des femmes dans la tech. Vous allez me dire, s'il y a déjà ce podcast, est-ce qu'on a encore besoin de parler des femmes dans la tech ?
Je te confirme qu'on en a besoin. on n'a pas tout résolu, hein. Ça fait 2-3 ans. Et...
C'est une vraie question parce que j'entends une petite musique. J'en parlais avec un certain nombre de femmes dans la tech. Notamment Tatiana Jama de Sista, qui entend un peu la même de « Oh, mais les gens en ont marre, gender fatigue. »
On parle de gender fatigue.
Il n'y a aucun concept, je pense, qui mérite plus que le concept de gender fatigue. Et oui, il faut continuer à en parler parce qu'on est loin d'être arrivé.
Tu peux inventer la gender routine.
Aussi. Et il faut surtout agir. Je pense qu'on est tous capables d'initier ce changement. Parce qu'on a tous des biais et donc on est tous finalement participants au fait que on en est... C'est pas pour dire que c'est la responsabilité des uns et des autres, mais il faut en tout cas qu'on ait ce problème consciemment à l'esprit si on veut que les choses bougent. Pour le Pacte Parité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rassemblé un certain nombre de CEO et C-level du French Tech 120 Next 40. Ça, c'est suite... On est donc l'année dernière, sortie du palmarès French Tech 120 Next 40, février 2022. Mmh. Et il n'y avait aucune femme CEO dans le Next 40. Et à la même époque...
Sur le...
2000, l'année dernière.
Ouais, troisième palmarès.
Cette année, il y en a une. C'est la CEO de Pigment.
Éléonore Crespo.
Tout à fait.
Dont on a dit que c'était la première, mais je tiens à rappeler que la première, c'était Julia Bijawi.
Tout à fait.
Et qu'après, il y a eu Alix de Sagazan pour AB Testi. Tout à fait.
C'est possible, oui. Si, fais-moi confiance. Oui, je te crois.
On les suit de près.
Je te crois. et du coup, donc on est à cette période. Et donc forcément, en plus au même moment, il y a quelques changements de direction au CAC 40. Et donc, trois femmes sont nommées successivement à la tête du CAC 40. Orange, Veolia, Engie. Et donc, voilà, donc, en fait, là, il y a deux façons de réagir. Je pense que ce programme, il est là depuis longtemps. Il y a des gens formidables qui travaillent dessus. On parlait de Sista, ça fait des années qu'elle travaille sur ce sujet. Willa, très, très embarquée. On les soutient d'ailleurs énormément avec la mission French Tech. On est très fiers de pouvoir participer à leurs initiatives. Mais on a voulu aller plus loin et donc, on a rassemblé donc, les dirigeants du French Tech Summit Next 40 qui avaient envie de participer. En se disant qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle des boîtes pour que ça change. Ce qui était intéressant, je pense, deux anecdotes. Première anecdote, quand j'ai commencé à contacter les CEO, un certain nombre de CEO m'ont dit, donc rappelons que les CEO du Next 40 étaient tous masculins. Masculin. On me dit complètement, on est à fond, on est mobilisés, ce sujet, on va avancer, on avancera plus vite si on travaille en collectif, voyons ce qu'on peut faire. Mais j'imagine que pour tes ateliers, tu veux une femme. Et j'en parle parce que déjà je pense que c'est et bien sûr je ne voulais pas que des femmes.
Ben non, c'est à tous de saisir.
Parce que c'est en travaillant ensemble qu'on peut aller plus vite. Mais je pense que c'est une vraie question. C'est il faut que tout le monde se sente légitime de pouvoir travailler sur le sujet. On n'a pas besoin d'être une femme pour travailler sur les sujets de femmes. Au contraire, on a besoin de tout le monde. On a besoin du collectif. On a besoin que les hommes prennent conscience du sujet, mettent en place des choses. Et on a la chance d'avoir eu des CEO extrêmement engagés dans la construction de ce pacte parité. Et je le souligne parce que je pense que c'est pour ça que c'est une réussite, cette initiative. Et ensuite, deuxième chose qui est importante à souligner, je pense que la plupart, enfin pas la plupart, mais certaines personnes ont osé dire, nous, on s'est dit, bah, on est entrepreneur de la French Tech, on a des équipes qui ont en moyenne 35, peut-être 40 ans. Ce qui est un autre sujet d'ailleurs. On n'a pas ce problème, on connaît le problème de la parité, on le connaît, on est sensibilisé. Et en fait, c'est seulement, et je reviens à mon histoire de bilan carbone, en commençant à mesurer, qu'on se rend compte que bah ouais, on connaît, mais on est comme tout le monde. Et il y a une étude de Sista et BCG qui est sortie, qui a montré qu'il y a 23% de femmes dans les comités de direction des startups du French Tech 100 aujourd'hui. Mais moi, le chiffre qui me reste en tête, qui je pense est le plus important, il y a 25%, donc une start-up sur quatre, où il n'y a aucune femme au COMEX. C'est-à-dire que toutes les technos là, dont on parlait tout
ça,
à l'heure...
Ça, il n'y a pas besoin d'études pour le mesurer assez facilement autour d'une table.
Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais toutes les technos dont on parlait tout à l'heure, les décisions stratégiques sont prises dans des salles où il y a en tout cas une absence de diversité de genre. Et donc, on a travaillé collectivement pour se dire, bah, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est une succession d'engagements très concrets. Revoir les processus de recrutement pour qu'ils soient plus inclusifs. Les processus, comment est-ce qu'on s'assure que la représentation de l'entreprise soit paritaire? Les processus au retour de congés parentaux, parce que c'est un vrai sujet dans une boîte qui va très, très vite. Comment est-ce qu'on re-onboard les femmes quand elles sont parties cette semaine pour leur congé maternité? Et aussi se dire... exemplarité, on va pas attendre que on soit des grandes entreprises pour devoir se plier aux quotas qui sont selon moi une grande chance qu'on a en France, je pense à la loi Copé-Zimmermann ou à la loi Rixin, pour se dire on veut atteindre la parité dans les conseils d'administration et donc aussi cette démarche. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et on a plein d'autres sujets, donc on y reviendra peut-être, mais c'est qu'un an après la signature de ce pacte parité, on a des résultats très concrets. On a des boîtes comme Conto qui sont passées de 33 à 43% de femmes dans leurs effectifs. On a des boîtes comme Devialet qui, lors de leur dernière levée de fonds, ont dit « bah nous, on veut la parité au board ». Donc ça va être un truc non négociable dans la levée, et qu'ils l'ont fait. C'est des petits changements, c'est des petits gestes, mais qui, je pense, sont importants pour prendre conscience, mesurer et ensuite implémenter et en faire un sujet prioritaire. Je dis pas que ça suffit, je dis pas que les chiffres qu'on voit aujourd'hui, tout est réglé grâce à ce pacte de parité, mais je pense que collectivement, si on avance tous dans le même sens, on finira par voir les choses changer, et en tout cas, il y a une vraie volonté d'y aller.
Un petit pas pour le COMEX, un grand pas pour la mixité. Il y a, quand on aborde ces sujets-là, il y a aussi du coup le nombre de femmes entrepreneurs qui lèvent des fonds, c'est un des combattistas, qui ont peut-être pas ces billets-là. Ou ce serait marrant de voir si finalement des boîtes montées par des femmes ne recrutent finalement beaucoup plus de femmes et si c'est les mêmes proportions inversement. Mais tu vois, typiquement, une des réflexions que j'avais récemment, c'est quand tu es une femme entrepreneur, que tu as un enfant, le sujet de la garde de l'enfant est un vrai sujet. Ça veut pas dire que quand tu dois reprendre un boulot de salarié, c'est pas un sujet, mais quand l'entrepreneur ne peut pas être à la tête de sa boîte, c'est un sujet qui a une vraie dégradation de valeur et d'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à porter aussi tout là-haut?
Oui, dans ces ateliers du Pacte Parité est revenue beaucoup la question du congé du second parent. Déjà, je tiens à souligner...
Et que ça, c'est bien, ça va dans le bon sens.
Se réjouir, même si, 30 jours reste 30 jours, mais se réjouir qu'il y a eu une avancée qui a été d'ailleurs le fruit d'une énorme mobilisation de la French Tech. Ouais. C'est le Parental Challenge au début. Parental Act.
Qui... Devient parent challenge.
Voilà, tout à fait. qui a poussé et initié finalement ce changement. Donc c'est possible, ouais, quand la société civile se saisit d'un sujet, de voir qu'ensuite ça peut donner lieu à l'évolution de loi. Et c'est génial. Et je pense qu'on peut remercier tous les gens qui sont extrêmement engagés dans tout ça. Mais oui, un certain nombre d'entrepreneurs disaient, mais homme ou femme d'ailleurs, hein, je pense que on a tendance à se dire waouh, elle est entrepreneur et elle a un enfant en bas âge, parce que on a encore une fois les biais de se dire c'est plutôt la femme qui va garder, ouais, l'enfant. Mais je pense que pour un entrepreneur,
mais ça marche dans
masculin,
les deux sens. Ça marche dans les deux sens.
C'est tout autant un challenge.
Mais donc d'avoir une solution de garde à minima pour pouvoir continuer de développer sa boîte, c'est un sujet.
C'est un sujet. Et un autre sujet qui est venu dans ces ateliers du Pacte Parité, c'est aussi le sujet du remplacement de congé maternité. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas systématiquement déjà le réflexe, alors qu'en réalité, surtout dans des entreprises qui vont aussi vite et qui ont des ressources quand même relativement contraintes, on a besoin de remplacer les gens quand ils passent en congé, partent en congé parentaux. Et une question que je trouve intéressante, même si je n'ai pas la réponse, mais de la valorisation du remplacement de congé maternité. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça soit attractif pour les gens de se dire,
je vais venir quelques semaines,
pour remplacer un congé maternité sur un poste exceptionnel, je vais apprendre quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à imaginer là-dessus.
C'est intéressant. Eh bien, à garder. Hein. Si vous avez derrière vos écouteurs la solution, n'hésitez pas à les partager. Je te propose une transition. Allez, plus ou moins habile, mais on reste à peu près sur ces thématiques. Mais ça fait pas trop mal. C'est le moment de ta claque. Je t'ai demandé de réfléchir à un moment où t'as une claque, salvatrice ou non d'ailleurs, et de nous la partager.
On va rester dans le thème. J'ai déjà parlé de ça, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Donc, j'ai été nommée à la mission French Tech en octobre 2021 et je prenais mon poste en novembre 2021, donc 30 jours après. Et dans ces 30 jours, je suis tombée enceinte. Donc au moment de ma nomination, je n'ai pas pu l'annoncer puisque je n'étais pas enceinte. Donc je suis arrivée en prise de poste enceinte. Et
je me permets, mais à ce moment-là, il y a un moment où tu te demandes si tu dois prendre cette mission ou comment ça va être pris.
Ah, complètement.
Il est là le sujet.
Oui, en fait, déjà, je pense qu'avoir un enfant en soi, c'est une claque pour toute l'organisation, on vient d'en parler. C'est une claque qui, aujourd'hui, maintenant, je peux le dire, avant l'arrivée de l'enfant, me paraissait complètement extraordinaire. Et en fait, c'est extraordinaire dans tous les sens du terme et c'est surtout absolument merveilleux. Et ça, je pense que n'importe qui est parent certainement pensera pareil.
Et du coup, les
détails d'organisation sont finalement assez secondaires. Mais à l'époque, je le sais pas parce que j'ai pas d'enfant. Et donc, je me dis, en fait, on m'a confié cette mission. C'est une mission pour l'État, pour le service public. Et moi, j'arrive, je vais dire salut. Mais en fait, moi, dans 9 mois, je suis plus là. Parce que je le veuille ou non, en fait, il va bien falloir que cet enfant naisse. Je veux dire que je veuille ou non prendre un congé mat.
Oui.
Et en l'occurrence, j'avais envie de prendre un congé mat. Et du coup, il va bien falloir que cet enfant naisse, que je m'en occupe. Et voilà, c'est
donc
pas...
Donc tu te mets une pression.
Donc je me mets une pression où je me dis, mais comment je vais annoncer ça? Enfin, on me confie une mission que... Bah, de par la loi de la nature, dans 9 mois, je ne pourrai plus faire de la même façon. En tout cas, pour quelques mois. Et en fait, claque salvatrice, parce que donc j'arrive tout angoissée, j'attends les 3 mois réglementaires, tout ça. J'arrive tout angoissée, et à l'époque, le ministre du Numérique, c'est Cédric O. Et je lui dis, à la fin d'une de nos réunions habituelles, est-ce que je peux te voir 5 minutes? J'avais répété mon truc et tout ça m'avait trop angoissée toute la nuit. Et il me dit, mais attends, mais c'est génial. Pourquoi tu stresses? C'est la meilleure chose. Et je lui dis, alors je vais prendre le congé mat le plus court possible. J'ai regardé sur Internet, c'est 8 semaines. Donc moi, je vais prendre 8 semaines. Je serai joignable tous les jours. Ne t'inquiète pas, je suis là.
Et quand je passe à la 8 semaines de 4 jours, ça nous amène à lundi.
Et il me dit, alors surtout, tu ne dis à personne ce que tu viens de me dire parce que t'en sais rien. Parce qu'en fait, ça se trouve, t'auras envie de prendre les 16 semaines, ça se trouve, t'auras envie de prendre plus, ça se trouve, t'auras envie de déconnecter, ça se trouve, t'auras pas envie de déconnecter. Donc.
Écoute-toi.
Et tu fais comme tout le monde, tu planifies ton congé maternité, tout le monde va s'en sortir. Et il m'a dit cette anecdote que j'ai déjà donnée aussi, mais que j'adore. Tu prends une règle de 40 cm, c'est à peu près une carrière, et maintenant tu prends 3 mm. Ça, c'est un congé mat. Franchement, ça va aller. Ça va aller pour tout le monde.
J'aime bien la métaphore.
Heureusement qu'il m'a dit ça, parce que j'ai pris mes 16 semaines de congé maternité et ça a été un moment exceptionnel et pour rien au monde, j'aurais raccourci. Donc, et tout s'est bien passé. Et ça s'est bien passé aussi parce que j'ai une équipe extraordinaire qui a tenu la baraque pendant ces semaines-ci et qui, en plus, a vécu un changement de cabinet, hein, parce qu'il y a eu des élections entre-temps, donc nouveau ministre. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et oui, aujourd'hui, au quotidien, bah, parfois c'est un peu folklorique, mais tout ça se gère.
Il y a eu des millions de parents avant nous. Et
il y en aura des millions après. Et je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations 1000 fois plus compliquées que la mienne. Et j'ai énormément de chance d'avoir un soutien familial exceptionnel, d'avoir aussi une maîtrise de comment je m'organise. Mais je pense que... Et je dis salvatrice aussi parce qu'en fait, j'ai beaucoup hésité à en parler. Et j'en ai parlé. Et le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire... Je suis trop contente que t'en aies parlé parce que je veux prendre ce poste, j'ose pas parce que je suis enceinte ou j'ai envie de me lancer mais je me dis que je veux un enfant donc c'est peut-être pas le moment.
Ou je vais lever des fonds mais je viens d'apprendre que je suis enceinte, que vont penser les invests, on l'a entendu ça aussi.
Et en fait, beaucoup de femmes, bien sûr on aimerait que ça soit pas un sujet, hein, moi la première, mais beaucoup de femmes se posent cette question. Et si on attend le moment parfait, ceci, cela, si on se dit que c'est pas possible... je pense qu'on...
Tu peux attendre une vie comme
on
ça.
On passe à côté d'opportunités et du coup, faut y aller. Et on trouvera des solutions. Et je pense que surtout, aujourd'hui, bien sûr, il reste plein de choses à faire, mais la société a quand même beaucoup évolué sur ça. Je ne sais pas si c'est le passage du Covid qui a rendu visible la vie personnelle des gens ou autre, mais en tout cas, on peut s'organiser. Et je disais à une des personnes avec qui j'ai échangé sur ce sujet suite à tout ça. Oui, j'ai peur, je postule pour un nouveau poste et j'ai peur que si je leur dis, ils ne vont plus vouloir me donner ce poste. Je dis, mais en fait, si tu leur dis et qu'ils réagissent comme ça, je ne pense pas que tu as envie d'aller dans cette boîte.
Il est là le sujet.
Donc, il faut leur dire. Donc voilà, c'était peut-être la claque dont je voulais parler.
Ça permet de tester ses employeurs aussi. Écoute, super transition, je te propose de parler de toi. comprendre d'où tu viens, peut-être à quoi tu aspires, tu respires, c'est le moment.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Je te propose de me raconter quelle était la petite fille Clara il y a quelques années.
On part très loin dans le passé.
Ouais, ouais. Tu peux fermer les yeux, t'allonger.
Ok, très bien. Alors moi, j'ai grandi dans un village de la forêt de Fontainebleau qui est très connu pour l'escalade. Donc c'est un village de 700 habitants, donc il faut se projeter, on est au milieu de la forêt, avec tout ce qui va avec. Donc un environnement, on n'est pas dans une grande ville, donc on est très libre, il n'y a pas de danger.
À part les vipères.
À part les vipères,
Fontainebleau,
c'est ouais. vrai, j'ai eu la chance de ne pas me faire piquer, mordre. On est dans une école où il y a 3 niveaux par section. On est à l'ancienne, hein. donc t'as maternelle, CP, CE1 dans une classe, et puis la classe d'après, c'est CE2, CM1, CM2. Donc ça pose un peu le cadre. Et pourquoi je raconte ça? Pour 2 choses. Je pense que j'ai du coup eu un côté assez scolaire. Enfin, je sais pas si c'est du coup, mais en tout cas, eu un côté assez scolaire. Toujours l'envie d'apprendre plein de choses, en écoutant ce qui se passait dans la classe, dans la même classe, mais chez les grands.
Ouais, avec les plus grands, s'inspirer des...
Voilà, développer une petite curiosité comme ça. Et je pense que le fait de grandir dans un monde qui est relativement, je veux dire, d'un point de vue physique, petit mais libre, m'a aussi donné envie de beaucoup explorer. Donc, très vite, après, j'ai suivi le parcours un peu classique, prépa, grande école, machin.
Et tu vas aller explorer.
Et je suis allée explorer.
Pendant des années.
Pendant 9 ans, j'étais à l'étranger.
En Asie.
En Asie. Ça a commencé au Japon, à Okinawa, donc sur une île du sud du Japon, tout au sud, où j'ai fait un stage dans un hôtel pour apprendre le japonais, où je me suis retrouvée plutôt à ouvrir la porte que à parler japonais. Enfin, remarque, je disais « Bienvenue dans cet hôtel » en japonais.
Comment, tu sais encore le dire, je présume.
Tsukare samades. Voilà. Parce que mon japonais était pas très très bon, donc rapidement, on m'a fait comprendre que c'était pas tout à fait adapté.
Et finalement, t'as pris la porte.
Voilà.
Après l'avoir ouverte.
J'ai pris la porte. Mais c'était la première ouverture vers l'Asie au sens large. Et du coup, à la fin de mes études, je suis revenue dans la région, d'abord à Hong Kong, puis à Bangkok, puis à Singapour. Et c'est là où j'ai rejoint les startups.
Cet univers tech.
Tout à fait. D'abord dans un projet...
C'est le pendant de Zalando, hein, c'est
tout
ça?
Tout à fait, Zalora. Donc on est en Thaïlande, 2012. Pour poser le cadre encore une fois, il n'y a pas de e-commerce. En fait, on fait partie des boîtes qui créent le e-commerce. Il y a 60 millions d'habitants, 6 millions de cartes bleues. Sur ce 6 millions de cartes bleues, il y a à peu près 1 million de cartes bleues qui peuvent payer en ligne. Donc, et nous, on veut lancer un site de e-commerce. Donc, il faut tout inventer.
Il va y avoir un peu de RAM
ouais,
à sortir.
Oui, il faut sortir les RAM.
Ouais.
Donc, faut tout inventer. Le cash on delivery, la logistique, bah, il n'y a pas de last mile delivery. Donc, on a notre propre flotte à créer.
Et ton premier job, pardon, mais ton premier job, c'est je m'occupe de la newsletter.
Oui, donc moi, je débarque, c'est vrai. Je débarque chez Zalora. J'avais fait des stages très analytiques, plutôt dans des grands groupes d'ailleurs, chez Apple. Enfin, c'était pas un aussi grand groupe qu'aujourd'hui à l'époque, ouais. Mais ça restait. C'était la tech, mais plus grand groupe. Et du coup, le seul truc que je savais faire, c'était les chiffres, quoi. Donc, on me dit, ah bah, très bien, les chiffres CRM, tu vas t'occuper de tout ce qui est newsletter. Et puis, en fait, rapidement, on avait une personne qui devait coder les newsletters et qui, du jour au lendemain, vient plus trop au bureau. Mais bon, les newsletters, faut les envoyer. Donc, j'ai dû apprendre à coder des newsletters. Donc, je me retrouve à coder les newsletters. Le vendredi soir, fallait coder les 3 newsletters de la semaine.
C'est pas du drag and drop comme on peut avoir aujourd'hui.
Non, il n'y avait pas les magnifiques outils de la French Tech qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, expérience un peu terrain. Et puis après...
Tu vas prendre le market.
Je prends le marketing. Je me retrouve à 25 ans, une équipe de 30 personnes responsable du marketing d'un site de vente de vêtements en ligne en Thaïlande, un site qui est donc en Thaï. Donc moi, je m'occupe du marketing en Thaï. Et autant j'avais appris un peu le japonais, autant le Thaï, je parle pas beaucoup, même si je prenais des cours
challenge
à l'époque.
Mais du coup, t'as quelqu'un qui te traduit ce que t'es en train de faire.
Bah,
ouais,
du coup, je m'entoure de personnes de confiance, on travaille ensemble, mais ça aurait pu être une des claques d'ailleurs dont j'aurais pu parler. Mais c'est assez exceptionnel parce qu'on a tellement de choses à construire. tout va très vite et voilà, et j'ai la chance de pouvoir expérimenter différents métiers à une vitesse assez impressionnante.
Mais du coup, parce que sur une boîte comme ça, tu pourrais te dire, je vais mettre quelqu'un qui sait parfaitement parler à mes équipes, avec l'ensemble des membres du board, du COMEX. Et ils choisissent toi et tu vas grandir. En fait, tu vas grandir dans la boîte. Donc, tu te charges de la strat.
Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, je pense que ça, c'est d'ailleurs un des gros enjeux de toute cette époque. Donc, ça fait partie de la galaxie Rocket Internet, comment on arrive à créer et stabiliser avec des équipes de personnes dont c'est vraiment l'expertise et le métier et la culture. Et ça a été quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé quand je suis partie de Zalora Thaïlande. J'étais hyper fière parce que une des personnes qui était déjà là sur place, Marina, une fille géniale, et a pris qui est thaï-allemande, a pris la responsabilité du département marketing. Et je pense qu'on a réussi à inscrire quelque chose dans la durée qui est beaucoup plus pérenne que d'avoir quelqu'un comme moi qui connaît pas grand chose, qui démarque. Donc ça, c'était peut-être un des aspects clairement où je pense qu'on ferait les choses aujourd'hui. J'espère qu'on le ferait peut-être un peu différemment et plus vite. Mais oui,
il n'y a pas à rougir, enfin, ça a bien grandi.
Le positif de tout ça, c'est que du coup, on met des gens complètement inexpérimentés et on grandit avec l'entreprise et on apprend à faire tous ces métiers. Et c'est une chance exceptionnelle.
Et tu vas prendre la direction à un moment de cette boîte.
Oui, en fait, cette boîte, Zalora en Thaïlande, à la fin de l'aventure...
Désolé, j'accélère un peu.
Ouais, ouais. On décide de... Enfin, ça se passe en deux temps. On décide d'abord que la Thaïlande et le Vietnam, c'est des business trop difficiles à opérer d'un point de vue unit economics. Ça... Unit économique, c'était quelque chose déjà à l'époque.
La vérité, c'est que tu parlais pas thaï.
Et du coup, on se dit, peut-être qu'il faut reconcentrer les opérations d'Alora dans des pays où les paniers moyens sont plus élevés, Singapour, Taïwan, etc. Et finalement, on arrive à transformer ça en une acquisition. Et donc, on vend Zalora Thaïlande, l'équivalent des Galeries Lafayette locales. Et donc, c'est assez chouette parce qu'on passe d'un scénario où potentiellement on allait arrêter la boîte à un scénario où on la vend à quelqu'un dont on avait pas mal besoin.
On m'en veut pas, j'accélère, mais ensuite direction les US pour un billet et Harvard avec une amie, je crois. Tu vas décider de lancer ta propre start-up. Ça va aller assez vite, vous avez décidé de ne pas poursuivre. Je trouve ça toujours intéressant et je t'ai demandé si on pouvait en parler, donc je me permets. Mais ce qui fait qu'à un moment, avec un projet, on décide de dire stop.
Ouais, tout à fait. C'est pas une décision facile, hein, parce qu'on était vraiment mobilisés sur le projet, on avait des signes très positifs.
Lullaby, ça s'appelait.
Ouais, Lullaby. C'est en deux mots une marketplace spécialisée dans les produits pour enfants, parce que les enfants, ils grandissent très très vite, ils ont pas besoin de leurs affaires très longtemps, et pourtant ça coûte quand même bien cher. Pourquoi ne pas faciliter finalement le commerce et la revente de produits entre familles? Et donc on part avec cette idée. a priori, il y a un problème en tout cas. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais il y a un problème. Et du coup, on travaille sur ce projet pendant toute notre deuxième année. On monte le site, on a nos premiers produits mis en vente, clients, etc. Et en fait, on décide de ne pas continuer pour une raison perso. Pour des raisons perso, je voulais rentrer en Europe à ce moment-là. Et elle était américaine et elle voulait rester aux États-Unis. Et du coup, on se dit, les planètes s'alignent pas, on continue pas le projet. Et ouais, c'est pas facile parce que quand on est avec une équipe qu'on aime bien, un projet qu'on aime bien, on a envie d'avancer. Mais finalement, vu ce qui s'est passé ensuite, c'était peut-être pour le mieux.
Donc, tu vas rejoindre List à Londres, une scale-up anglaise, puis débauché par Maxime Bittner sur Vestiaire Collective. Ou peut-être on peut rapidement parler de cette expérience parce que c'est aussi comme ça que tu vas rentrer au Next 40.
Tout à fait. Ouais, Vestiaire Collective, donc marketplace de produits d'occasion aussi, hein, le thème est resté. mais pas pour enfants, pour tout le monde. Et spécialisé plutôt haut de gamme parce qu'avec un processus d'authentification. Et donc oui, Maximilian, que je connaissais d'Asie du Sud-Est, est nommé CEO de l'entreprise et m'appelle pour créer son équipe de direction. Et donc c'est comme ça que je rentre en France. en fait. Super projet, très belle boîte. On parlait tout à l'heure des différents moments dans la vie d'une entreprise. Je pense que c'est un bel exemple d'une boîte qui, voilà, à un moment a changé de direction pour mieux repartir, parce qu'ensuite est devenue licorne, Next40 et tout ça. Donc voilà, c'est pas linéaire, les trajectoires des boîtes, ça c'est certain. Et donc moi, j'arrive au moment où ce nouveau CEO arrive et où il faut finalement relancer la startup, enfin qui était déjà plus trop une startup, la scale-up, et notamment inventer un nouveau business model, ouvrir des nouveaux marchés, donc très entrepreneurial comme période, avec l'historique, la marque et la confiance des clients, donc un challenge assez chouette, c'est passionnant, et sur lequel, voilà, je pourrais parler des heures, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire.
Tout à fait, surtout
et qu'il serait bien mieux placé que moi pour en parler.
Eh ben,
il faut les inviter.
Ouais, le micro est toujours ouvert. Et puis ensuite, je te demandais, et forcément on s'interroge, comment tu passes de la start-up du Next40 à la direction de la mission French Tech. Moi, j'étais persuadé qu'on était venu te chercher, mais en fait, t'es pas la seule. Et en fait, t'as envoyé ton CV comme ouais. Tout le monde.
Tout à fait, j'ai envoyé mon CV en me disant « j'aurai jamais de réponse, je ne connais personne dans l'État ». Mais si, j'ai eu une réponse. Et après Vestiaire, j'avais envie de contribuer. C'est extrêmement énergisant de contribuer au succès d'une boîte, surtout des boîtes en hypercroissance, des startups. Je pense que chaque jour, il y a des succès sur lesquels on peut s'appuyer, et même quand il n'y en a pas, c'est génial. Mais j'avais envie de contribuer au succès de l'écosystème tout entier. Et notamment parce qu'un truc qui m'énervait beaucoup, c'est que donc, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps à l'étranger, et tu rencontres toujours des Français qui ont entrepris. Souvent, ils disent « Ah ouais, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait là, parce que j'aurais pas pu le faire en France. »
Mais ça, c'était avant.
Et ça, c'était avant. Et du coup, mon truc, c'était avant. Ça, c'était vraiment très excitant comme projet. Et donc, je pense que j'avais cette petite musique et l'envie de dire, mais non, c'est pas vrai, en fait. Parce que moi, quand je suis rentrée en France, donc je pars en 2010, je rentre en 2019. Et la French Tech de 2010, celle de 2019, a beaucoup changé. Et je sais...
2010, on parlait pas de French Tech. Le mot start-up... C'était balbutiement, mais je dirais même c'est plus 2012, 2013, 2014, le mot qu'on utilisait. Et tu disais entrepreneur, certains voyaient encore le BTP, Farah.
Et du coup, voilà. Et donc, je sais en rentrant que l'écosystème est extrêmement dynamique, d'énergie de dingue, qu'il commence à avoir des vrais très beaux succès. Et j'ai envie de contribuer à tout ça. Et je vois que Kat, qui était la directrice précédente,
Kat Borlogan,
quitte ses fonctions. Et du coup, j'ai envoyé mon CV. Et en fait, il y a eu un processus très carré avec un jury à Bercy.
Non, mais on n'imagine pas, justement. Donc, tu passes devant un jury.
Ouais, dans une grande salle de Bercy, ça, c'est impressionnant. où il y avait à la fois Jean-Charles Samuelian de Alan, Sandrine, une des présidentes des capitales French Tech de Toulouse, un certain nombre de personnes de Bercy, qui a vu, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine de personnes.
Et tu n'avais pas le profil.
J'avais pas le profil, oui. C'est vrai que j'apprends à ce moment-là que Cédrico, qui est le ministre du numérique de l'époque, dit qu'il veut vraiment quelqu'un de l'administration. Pas tout à fait moi, mais donc comme quoi, hein, le processus n'est pas biaisé parce que le jury lui présente ma candidature. Et donc ensuite, j'ai rencontré Cédric et finalement, je l'ai convaincu, j'espère. Enfin,
tu
je pense.
Tu en as rigolé, tu m'as dit, ouais, ouais.
Tout à fait, il me l'a dit d'entrée. Tu sais, je veux quelqu'un de l'administration. et voilà, et donc j'ai eu la chance de prendre cette mission.
Je te propose un jeu.
Allez.
Tu peux aller chercher dans le perso, le pro, plutôt des réponses courtes, mais on peut se laisser déborder. Premier coup de culot.
Le dernier, c'est celui-là, c'est d'envoyer mon CV pour postuler à la mission French Tech. Le premier, je me suis jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Donc, depuis toujours, je sais pas, que ça soit aller essayer d'escalader les rochers de la forêt de Fontainebleau, me retrouver dans un hôtel à Okinawa alors que je parle trois mots de japonais au bout du monde pour ouvrir la porte. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'habite. J'ai envie d'essayer, j'y vais.
Il y a rien qui te fait peur?
Non, au pire, on apprend.
Premier renoncement.
Premier renoncement, si, je sais. Vrai renoncement dont je me souviens clairement. En fait, à la fin du lycée, j'ai parlé du fait que j'étais un peu scolaire. Moi, j'aimais toutes les matières. J'aimais les maths, j'aimais l'histoire géo, j'aimais la physique chimie, j'aimais la SVT. Et donc, je postule un peu à tout, quoi. Ça pouvait être aussi bien école d'ingénieur qu'école de business, parce que j'avais envie un peu de tout faire. Et puis, à un moment, il faut choisir. Et donc, j'ai pris la voie business. Prépa éco et machin. Et c'est un renoncement parce que y a des sciences en classe prépa éco, il y a des maths, mais il y a quand même tout un pan des sciences qu'il n'y a plus et puis ça ferme la porte d'être ingénieur. Donc voilà, il faut choisir.
Le fameux choisir, c'est renoncer. Première nuit blanche, ou en tout cas la plus importante. Tiens, tu sais quoi, je vais prendre la dernière.
Dernière nuit blanche. Ouais. Ben en ce moment, on prépare Vivatech, donc il y a pas mal de boulot.
C'est marrant parce que qu'on parle côté BPI France, les équipes de Vivatech, en fait, toutes les gens à qui tu parles te disent « Ah non, mais en ce moment, c'est Vivatech, ça mobilise tout le monde. »
Ouais, mais pour... qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Ouais. De se dire qu'on a un événement de la tech, le plus grand événement européen, il est ici en France. Ça aussi, hein, on parle des succès, ça en fait partie. 100 000 personnes l'année dernière, voilà. Ça va être exceptionnel, je suis sûre, comme tous les ans.
Il y a un truc que tu aimerais découvrir cette année ?
C'est pas découvrir, mais peut-être redécouvrir. J'aime bien me garder du temps pour lire, pas des choses très scientifiques et pas des choses, des livres de business qu'il faut absolument avoir lus, mais des romans, voilà. Et c'est vrai que, entre un enfant en bas âge, Vivatech et ce genre de choses, j'ai peut-être moins le temps qu'avant. Et j'aimerais bien arriver à me libérer du temps pour ça aussi.
Pour lire. T'as une dernière lecture que t'aimerais partager ? Ça peut être justement complètement dehors du business.
Ouais, c'est quoi le dernier?
Qui t'a fait réfléchir? Pas forcément un truc récent quand même, mais qui t'a fait réfléchir.
En ce moment, je suis en train de lire Les années de Annie Ernaux. Je sais pas si tu l'as lu.
Je l'ai pas lu. Je sais pas lire.
Donc, c'est pas du tout un livre business. Pourquoi réfléchir? Parce que, elle a eu le prix Nobel, donc j'aime bien essayer de me dire, s'ils ont eu le prix Nobel, il y a une raison.
Généralement.
et c'est une auteure que j'ai découvert avec ce livre. Enfin, j'avais vu une de ses pièces, mais j'avais pas lu. C'est un style d'écriture assez particulier. Beaucoup de phrases qui s'enchaînent assez courtes. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et puis, en fait, ça retrace l'histoire d'une famille dans le détail. Et du coup, forcément, ça fait réfléchir à la société actuelle versus la société d'hier. Et pour ça, je trouve que c'est assez prenant.
C'est un bel outil pour réfléchir la lecture, pour se projeter, pour se donner le temps.
Tout à fait. Je comprends pas toujours, malheureusement.
Il y a une question que je t'ai pas posée.
S'inspirer. Respirer.
Comment tu prends ce temps de respirer ?
Justement, je devrais le prendre plus. C'est bien l'enjeu. Ça fait partie des choses que j'ai promis d'ailleurs à mon conjoint. Je l'ai promise à mon conjoint. Le week-end dernier, lors de notre échange de vœux.
Vous êtes mariés la semaine dernière, mais
tout
félicitations.
Merci, merci. Du coup, c'est sûr que quand on fait un job qu'on adore sur un écosystème qui est passionnant et que les possibilités de rencontres, d'échanges, de réflexions sont infinies, parfois on oublie de respirer. Donc ouais, je pense que la lecture, c'est un des engagements que j'aimerais prendre cette année. Et après... S'il y a un truc, j'étais le week-end dernier aussi à ma réunion de promo de mon MBA.
Attends, en même temps que ton mariage ?
Week-end d'après. Le week-end d'après. Voilà. J'ai fait les deux.
La fille qui ne tient pas du tout ses engagements.
Voilà. Non, le week-end juste après. Et y avait un prof qui fait sa recherche sur life satisfaction. Très grand sujet. Il y a deux, trois choses qu'il a dites qui me sont restées. Il y a qui reviennent à respirer, il y a déjà accepté que être, ça va peut-être sembler cliché, mais en tout cas moi je fais l'erreur, être heureux c'est pas forcément être spécial. Donc ce énième événement exceptionnel auquel on a invité, qu'il faut surtout pas louper parce qu'il y aura telle personne et que c'est une fois dans sa vie et qui est tellement spécial, bah peut-être qu'en fait si ce jour-là on a besoin d'être chez soi et de profiter de sa famille et de respirer justement, il faut l'accepter.
C'est peut-être ça spécial aujourd'hui.
Et c'est pas facile, hein, ouais. mais je pense que c'était un très bon conseil. Et l'autre chose dans ces échanges qui a été dite que je trouvais pas mal, et que moi je fais très mal, c'est aussi accepter d'être à 100% sur ce qu'on est en train de faire. Je suis en meeting, je vais couper mon ordinateur et je ne vais pas regarder les 150 WhatsApp que je vais recevoir pendant ce meeting ou 150 emails, c'est prendre le temps d'être là où on est, quoi. C'est peut-être que je vais pouvoir voir mes amis qu'une fois par semaine cette semaine,
mais en fait,
l'heure où je serai avec eux, je serai vraiment là et je serai pas en train de répondre à des mails ou à faire autre chose en même temps.
Une question, et je vois le temps qui file, donc j'ai l'habitude de pousser, on pourrait rester des heures comme ça. Mais une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs justement du Next 40, a fortiori quand ils sont parents, c'est comment ils projettent l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants dans un monde de tech, quand on sait notamment que les grands acteurs de la tech que tu citais tout à l'heure, eux mettent leurs enfants dans des mondes sans écran.
Très bonne question. Alors, j'en suis pas encore là parce qu'elle est encore trop petite et que j'essaie de me dire challenge après challenge. Mais oui, bien sûr, c'est une vraie question. Il y a le monde sans écran et il y a aussi une des questions qui m'anime aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui me fait beaucoup réfléchir. C'est un monde qui, je pense, va être bouleversé par l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui, en tout cas, tous les modèles se nourrissent d'une certaine vision du monde, parce qu'ils sont surtout développés aux États-Unis. D'ailleurs, c'est une grande chance de voir qu'il y a des gens qui ont été, je pense par exemple à Mistral AI, qu'on ne présente plus, qui est la start-up qui buzz en ce moment, mais qui a ramené un certain nombre de personnes expertes de l'intelligence artificielle qui travaillent chez DeepMind, chez Meta, ici en France, pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle ici. Ce monde va beaucoup changer et appréhender ce changement. Et c'est bien sûr quelque chose auquel je réfléchis quand je pense au futur de mon enfant.
Et en même temps, ça va tellement vite qu'on ne peut pas avoir les réponses pour...
Et comme dans tout changement technologique, je pense qu'il y a 25 ans, 30 ans, au début d'Internet, tout le monde devait se poser ces mêmes questions et on trouve la voie.
Pareil pour les jeux vidéo qui allaient tous nous rendre violents.
Voilà, mais on trouve la voie.
Eh bien, avant de nous quitter... ma chère Clara, je te propose de faire un exercice un peu particulier parce que on est dans le Sista. Donc d'habitude, je propose aux entrepreneurs de choisir une femme qu'ils admirent et de leur donner la parole ensuite au micro de Solène, que j'ai toujours plaisir à lui voler. Donc on le fera pas éternellement et passer des Sista, mais je t'ai demandé de choisir une femme entrepreneur que t'admires pour qu'à minima on puisse la nommer.
Et je t'ai dit que c'était beaucoup trop difficile comme question, parce que moi, je les accompagne toutes.
Mais... Et je t'autorisais un top 3, ce qu'on
allez,
ne fait
allez,
jamais.
Top 3.
En tout cas, dans Cité 3,
pas
il faut
top
mettre 3, un podium.
Parce que ça voudrait dire mettre un podium. Ouais. Mais non, celle auquel je pense, il y a notamment Julie Davico-Pahin, qui est la CEO de Ombrea, et aussi la présidente de French Tech ex-Marseille depuis maintenant quelques mois, qui est une des toutes premières à qui j'ai eu l'occasion de rendre visite. J'ai commencé, je crois, en 1er octobre.
Le 5 octobre.
Ouais, et le 5, on était chez eux à Marseille. Et voilà, qui crée des ombrières connectées pour rendre l'agriculture plus durable et notamment l'utilisation de l'eau, qui fait un projet formidable à Aix et qui, en plus de ça, se mobilise pour la French Tech en étant une présidente. Ouais. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense aussi à Sophie Cahan, Ganymede Robotics, extrêmement belle boîte. On parlait de deep tech et de nouvelles frontières technologiques. C'est aussi assez exceptionnel ce qui est développé.
Tu peux partager en deux mots ce qu'ils font, hein.
ou encore Alexandra Carpentier de Toupie Organics, qui, pareil, très deep tech, utilise les urines humaines pour créer les fertiliseurs agricoles de demain. Donc voilà,
ça on est sur... Ça n'en manquera pas en plus.
on est sur des technos assez exceptionnels.
Eh ben, c'est dommage, ça m'aurait bien donné envie de les recevoir. Faut les faire rentrer au...
Les trois.
Et il y en a qui rentrent au...
Qui rentre aujourd'hui dans la liste. Ah, ça, je vous laisserai le découvrir.
Eh ben, j'espère. Un immense merci.
Merci.
Un gros plaisir. Et on ne se quittera pas sans la question de celui qui nous a fait nous retrouver aujourd'hui, la question de Loïc, qui va nous amener à nous projeter pour les prochaines années.
Ben, la question, du coup, c'est quand est-ce que tu comptes te relancer dans le grand bain d'entrepreneuriat?
Et bim, dernière question qui envoie.
C'est une très bonne question. En fait, c'est difficile de réfléchir à cette question quand on est dans une mission aussi passionnante que celle dans laquelle je suis. Donc, je vais faire une réponse un peu de différente. Mais là, aujourd'hui, je me dis plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année et demie qui me reste de mon mandat à tête de la French Tech.
C'est un mandat renouvelable.
C'est un mandat renouvelable.
Qui peut l'être, ok.
Qui peut l'être, ouais, une fois. Et je pense que cet enjeu de nouvelles frontières technologiques et d'accompagnement des startups, notamment startups industrielles, c'est un enjeu qui est passionnant, sur lequel il y a encore tout à construire. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ça relie toutes les thématiques dont on a parlé, ça relie aussi la thématique de l'ouverture des talents, de différents métiers en fait, qui sont créés par ces startups.
Si je résume ce que j'ai compris de toi, c'est une mission dans laquelle tu n'es pas obligé de choisir parmi tous les sujets qui t'intéressent et sur lesquels il y a, là pour le coup, il y a un vrai impact possible.
Tout à fait.
Eh ben, merci.
Merci.